Notre remontée de la scène commence par une surprise, et je suis heureux de vous la faire partager. Vincent et moi, au mépris de tous les règlements du baron Haussmann, nous avons passé la nuit à proximité du marécage, enroulés dans des couvertures militaires grises de type F1, pour voir le soleil se lever sur la vallée de la Seine. C'est quand même une expérience que l'on n'a pas souvent. Et le matin, après avoir erré en vain pour trouver l'un de ces cafés dont les pandémies nous privent, eh bien, revenant près des sources de la Seine, nous avons fait une rencontre. Et je vous avoue que cette rencontre me fascine comme l'effet de ces coïncidences heureuses que les surréalistes adoraient, l'effet du hasard. Nous avons rencontré ici l'un des meilleurs spécialistes, malgré son jeune âge, d'Agram Bagranko, Edmond de la Mirande, qui est professeur à l'université de Vancouver. Quand je dis professeur, c'est qu'il vient juste d'y terminer sa thèse, et qui venait ici ce matin, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Et je me suis dit que nous allions en profiter, parce que notre guide, en fait, le long de la Seine, c'est Bagranko. Vous en êtes l'un des spécialistes les plus reconnus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce tableau que Bagranko a commencé de peindre ici, en fait, et qui est, si je me souviens bien, un tableau sur Ithaque, n'est-ce pas ?
En effet, c'est là qu'il a dessiné Tempête au large d'Ithaque, qui est un dessin complètement essentiel à la compréhension de son œuvre. Bagranko, c'est une figure complètement floue et un peu underground de l'art du XXe siècle. Déjà, ce dessin explique un peu ce qui pourrait être un pseudonyme. Il avait repris une phrase indienne, Agram Bagram, qui veut dire « toutes choses liées entre elles ». Et donc sur ce dessin, en haut à gauche, on voit une espèce de pelote de filaments qui lie les éléments du tableau entre eux. Et on remarque que la baleine est à l'envers dans le dessin. Et j'ai découvert ça il y a très peu de temps. En fait, au dos de ce dessin, il y en a un petit poème qu'il a écrit très rapidement au crayon au papier, et que personne n'a vu parce que quand ce dessin était affiché, il était contre le mur. Et au dos de ce dessin est écrit un très court poème. Hier j'ai vu une baleine dans la Seine, sur mon cœur une loi, sur mon cou une croix. Hier j'ai vu une baleine dans la Seine, depuis je marche sur les mains pour voir le monde à l'endroit.
Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que pour nos auditeurs, on va dire quelques mots de la destinée d'Agram Bagranko, et puis j'espère que vous pourrez peut-être nous accompagner pendant quelques jours en montant la Seine, retrouver ici ou là. C'est vraiment
un peu solitaire ici.
Voilà, c'est un grand privilège pour nous de vous avoir rencontré ici, monsieur le professeur. Un mot sur Bagranko. On lui a prêté des origines de prince russe, d'ukrainien, de juif de Tbilissi. Il est venu en Russie après la Révolution. Il a été naturalisé français en 1931. À l'époque, les papiers administratifs lui donnaient 30 ans. Et en 40, il s'est embarqué pour Le Havre, où nous le rejoindrons dans quelques semaines. Il s'est embarqué pour Le Havre pour partir à New York et pour rejoindre après Los Angeles, la Nouvelle-Zélande et les Fidji. Puis il s'est fixé en Colombie, dans l'île de la Reine Charlotte, où la découverte des totems Aïda en bois l'a amené à fabriquer ces grandes colonnes ornées des portraits des pères du désert que l'on peut voir maintenant au musée d'art de Vancouver. C'est là où il est mort en 72. On voit sur sa tombe la même phrase que sur la tombe d'André Breton au cimetière des Batignolles. Je cherche l'or du temps. Je reviens donc à la Seine. Ses origines sont banales, en dehors de la présence d'Agram Bagranko dont on vient de parler. Ses origines de la Seine, cette source de la Seine, est relativement banale, petite, marécageuse, avec un côté de parc public. Mais tout de suite, il se passe quelque chose du mystère de la Seine. C'est qu'on voit apparaître sur le cours de la Seine un de ces personnages fabuleux qui, mythique ou non, jusqu'à Arsène Lupin, Sainte-Geneviève ou Flaubert, ont illustré le cours de la Seine. Et c'est par un personnage fabuleux et raisonnablement inconnu que je voudrais commencer notre voyage. Il s'appelait Vorle. Vorle est un personnage qui est né à deux pas d'ici et qui est un saint, qui était encore révéré jusqu'au XIXe siècle et qu'on trouve dans les mémoires de Guizot. Il était né vers 530 et était apparenté au roi des Francs, qui s'appelait Gontran Ier, qui se signalait par une cruauté absolument hérodienne, égorgeant ses médecins afin qu'ils se sentent moins seuls au cours de son voyage vers l'au-delà. Et Vorle, qui était curé à 800 mètres d'ici, a été l'infatigable apôtre au moment de la dislocation de l'Empire, alors que, comme l'écrit Grégoire de Tours, pas un jour ne se passait sans crime, pas une heure sans combat, pas un instant sans deuil. Et c'est une impression que l'on ressent ici entre, je vous l'ai dit, ce marécage un peu de square public et ce petit parc Monceau, et juste derrière cette forêt qu'on sent tout habitée par les passions. Et puis, lorsque la guerre est partout, il est souhaitable que les saints le soient aussi. Et Vorle avait, ce qui est assez extraordinaire, le don d'ubiquité. On rapporte que, disant de la messe à Marcenais pour le roi, il se figea tout d'un coup dans une immobilité complète en ne revenant qu'un long moment après et expliquant au roi qu'il était parti sauver un enfant dans une maison en femme à 20 km de là. Après sa mort, et c'est utile à savoir en cas de pandémie, on invoquait de manière utile Vorl contre la peste, contre le choléra et contre toutes les épidémies. Ces ossements ont été malheureusement dispersés en pleine rue au cours de la Révolution par des indigènes avinés. Mais on remarque que le doigt de Dieu ne les a pas tenus quittes et a dénoué le fil des locaux qui avaient profané l'extraordinaire figure de Vorl et son destin. L'un, qui était un brasseur, mourut en ayant les membres horriblement contrefaits. Un autre, occupé à battre des croix, fut écrasé par l'une d'entre elles alors même qu'il l'abattait. Et un autre enfin, qui s'appelait Chapelet, ça ne s'invente pas, et qui vociférait contre la Vierge, fut poussé tout près d'ici en descendant au milieu de la forêt, fut poussé dans la Seine par un quidam qui lui dit pour tout viatique, puisqu'il n'y a plus de Sainte Vierge, il n'y aura plus de Chapelet. Et puis avec Vorl, cette forêt de la Seine prise à sa naissance a vu naître également un des grands héros médiévaux qui est Girard de Roussillon, qui est à la manière de Roland, le centre d'un cycle médiéval qu'on appelle le cycle du don de Mayence. Ce sont tumultes, cavalcades, trahisons. Les hommes sont mus par le goût du pouvoir, par la soif de l'or, par le désir de gloire. La politique est partout. Girard, qui est un grand seigneur, est trahi par son sénéchal. Les rois ne respectent pas leurs paroles. Les barons ne pensent qu'à en découdre. On dirait une sorte d'odyssée sans dieu, où les hommes ne sont les victimes que d'eux-mêmes. La seule chose qui les distingue des politiciens modernes, c'est qu'ils tirent autant de traites sur eux que sur leurs sujets, que leur sang baigne leur défaite et qu'il n'est vraiment pas rare qu'ils se repentent. Et les aventures du Girard permettent de s'inscrire absolument en faux contre cette idée qu'au fond, le Moyen-Âge aurait été rêveur quand la Renaissance serait uniquement réaliste. Le réalisme le plus plat, le plus cru, le plus vif est partout. Et très loin d'y ressembler à un conte pour enfants, la religion n'y est que l'expression d'une conscience mise en péril, l'expression permanente d'une sorte de nostalgie du bien. Les héros piétinent la religion comme s'ils voulaient se débarrasser d'un remords. Girard, par exemple, après avoir assassiné les habitants de Montbrun, à peu de distance d'ici, incendie et pille l'abbaye de Vaucouleurs, où les chevaliers fidèles au roi se sont réfugiés sans aucun souci de la tradition de l'asile et sans faire aucun quartier. On croirait plutôt que les niaiseries pré-romantiques le rappellent du proverbe afghan célèbre « La terre est dure, le ciel est loin ». Et si au fond le ciel paraît se rapprocher parfois dans ces combats à l'intérieur de ces forêts immenses qui nous entourent, c'est en prenant la forme du plus fragile et du plus démuni des êtres, comme cet ermite chez lequel Girard se réfugie après la bataille de Châtillon-sur-Seine, 10 kilomètres d'ici à peine, et qui essaie en vain de l'amener au pardon des offenses. C'est le doute, au fond, et non la foi qui accompagne Girard jusqu'à la fin. Il doutera même avant de s'ensevelir avec elle dans la retraite de la vertu de sa femme, qui pourtant l'a accompagné dans tous ses combats. Comme si, malgré tout et au travers des années, la Seine diffusait autour d'elle une atmosphère de tromperie, de fêtes galantes et d'adultère que le XIXe puis le XXe siècle a popularisée.